Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr en mode confinement à distance avec Tiber Vink. Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est un essai, on est par vidéo interposée. D'ailleurs, tu es où là?
Là, je suis à l'Herbier, à Châtillon, dans la salle de réunion.
L'Herbier tourne donc toujours?
Oui, nous on continue depuis le confinement. On a réussi à trouver suffisamment de personnes pour pouvoir avoir une continuité pour nos clients, étant donné qu'on livre le secteur agroalimentaire, nos clients habituels sont ouverts et forcément attendent qu'on les livre.
Donc vous avez fait partie de ces personnes qui avaient su tout de suite que vous faisiez partie des professions qui pourraient continuer?
Pour nous, c'était assez évident, et étant donné qu'on est vraiment en lien avec l'agroalimentaire, donc dans les condiments ou dans les tisanes, on se retrouve dans les magasins qui eux étaient susceptibles d'être ouverts. Donc il y a une partie de nos clients qui n'ont pas cette étiquette-là, qui forcément ne commandent plus, mais on a quand même un grand volet de notre clientèle qui poursuit son activité. Donc pour nous, ça a été assez clair dès le départ. Après, il faut être honnête, la première semaine a nécessité, je pense, dans toutes les entreprises, des mises au point, aussi des réunions avec les salariés pour les nouveaux fonctionnements. Après, je pense que l'avantage dans l'agroalimentaire, tout ce qui est des gestes sanitaires, d'hygiène, etc., sont déjà très présents. Donc, c'est plutôt un renforcement qu'une innovation qui va mettre en place en quelques jours.
Par exemple, qu'est-ce que vous avez dû renforcer? Qu'est-ce qui était indispensable et qu'est-ce qui ne l'était pas, puisque justement, il y a quand même un équipement déjà bien en place, tel que tu le disais?
Pour nous, forcément, on s'est basé sur les gestes barrières. Donc, on a accru tout ce qui est, disons, les lavages de mains, donc toutes les procédures qui, normalement, sont à l'entrée des ateliers. Donc, les personnes, elles passent au vestiaire, elles se changent et ne portent que les habits de travail à l'intérieur des ateliers, se lavent les mains, passent au gel hydroalcoolique et vont travailler. Donc ça, c'est habituel. Et donc aujourd'hui, on a rajouté, disons, des distributeurs de gel. Donc ça permet à toutes les entrées de l'entreprise, à toutes les pièces de travail de l'entreprise, d'avoir ces gels à disposition. Donc il y en avait déjà dans tous les ateliers. Là, on en a rajouté surtout à l'extérieur. Donc ça fait que les personnes, par exemple les transporteurs quand ils arrivent, les personnes qui viennent nous voir, avant même de rentrer dans les locaux, elles peuvent se laver les mains. Voilà.
Et puis vous avez tous ces espaces un peu de coworking, là aussi il a fallu adopter un protocole particulier?
Pour les personnes disons nous qu'on appelle les admin, donc ceux qui travaillent dans les bureaux, dès le départ, les personnes sont restées en télétravail.
Ah oui.
Nous avions déjà des personnes qui tout au long de l'année le font. Donc là, on a juste demandé au personnel qui pouvait travailler chez eux de rester chez eux. Donc depuis 3 semaines, il y a des personnes qu'on n'a pas croisées, qu'on voit seulement par écran interposé ou au téléphone. Donc finalement, dans les bureaux, c'était assez simple à gérer. C'est plutôt en production où il a fallu créer des horaires, par exemple, pour rentrer seulement à 3 dans les vestiaires. Donc on a fait des horaires spécifiques par personne pour qu'il y ait un flux plus régulé à l'intérieur des vestiaires, à l'entrée et à la sortie. Il y a aussi les poignées de porte qui sont lavées 4 fois par jour. Il y a toutes les serviettes qui ont été plutôt mis à l'écart ou changés régulièrement pour éviter tout contact entre les personnes.
Du coup, réflexion, est-ce que ce télétravail pourrait être quelque chose qui, à l'avenir, reste dans l'entreprise, dans l'herbier du Diwa, quitte à ce qu'il n'y ait plus de bureau? Est-ce que tu vois quelque chose de possible ou est-ce que c'est quand même bien de se retrouver au même endroit en plus?
Nous, la réflexion, elle a déjà existé depuis des années. Je pense qu'on a une personne, la première, c'est Émilie qui a télétravaillé. Elle télétravaille depuis... Si je ne dis pas de bêtises, je me demande si ce n'est pas plus de 7 ou 8 ans. C'est des questions que nous nous sommes déjà posées. Forcément, il y a des personnes qui n'étaient pas assujetties au télétravail qui aujourd'hui font. Je pense que ça sera en temps voulu une réflexion à mener. Mais forcément, en face, il y a quand même la réalité de l'équipe, de la sociabilisation des gens, le fait de se voir en réel qui est important. Donc je pense que la présence à l'entreprise reste quelque chose d'indispensable. Mais la discussion, je suppose, dans les mois à venir sur certaines personnes qui auront découvert le télétravail, forcément, va naître et il faudra y donner des réponses. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas capable d'y répondre de but en blanc, mais... forcément, il va y avoir un retour d'expérience qui va nous être remonté.
Je reviens aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait que l'entreprise ne s'est pas arrêtée puisqu'elle entre pleinement dans l'agroalimentaire. On a vu, même jusque sur le marché de Die, des stands d'artisans en huile essentielle, par exemple, ou dans la phyto, se faire refuser d'exposer parce que, justement, pas vraiment essentiel comme production. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est normal?
Moi, je ne me considérerais pas... On n'est pas dans le métier similaire, dans le sens que si on est dans les huiles essentielles, en tout cas, il y a une partie qui n'est pas alimentaire. Il y en a même une grande partie qui ne l'est pas. Donc forcément, moi, je ne peux pas répondre à cette question, à cette question-là.
Mais c'est plutôt sur les plantes.
Après, on travaille avec des plantes, mais sous des formes différentes. Nous, on s'est juste mis en accord avec la réglementation et je suppose que les difficultés qu'il y a aujourd'hui à essayer d'endiguer le coronavirus demande des règles et donc après il faut des ajustements. J'ai pas d'opinion particulière là-dessus. Forcément, je pense qu'il y a débat, il faut donner ses arguments, il faut que ceux qui ont la responsabilité puissent aussi faire respecter certaines règles. La limite, elle est toujours, elle n'est jamais évidente. Donc, selon de quel côté de la ligne on se trouve, c'est vraiment pas évident pour les entreprises et pour les personnes. Donc, j'étais très étonné que le marché soit suspendu, alors que les supermarchés puissent continuer à travailler. C'est une bonne chose qu'il y ait eu une concertation et que ça puisse continuer sur la place du marché. Je pense que c'est une bonne chose. Nous, on n'a pas d'opinion sur ce fait que tel client, telle structure ou telle autre peut être ouverte ou fermée. Je pense qu'il y a des personnes qui sont là pour le juger et voilà.
Alors, c'était plus pour te lancer sur l'aspect plantes aromatiques qui ont des vertus. Je mets le mot, moi, volontairement, médicinal, peut-être dans le cadre des huiles essentielles ou peu importe, mais aussi dans le cadre des tisanes. Vous allez vers un bien-être, un bien-vivre. L'apport des plantes a un sens. Pourquoi, justement, on semblerait pouvoir en mettre de côté, dire ça, non, on ne veut pas que ça se développe, et puis, ou que ça se vende? Est-ce que ça correspondrait encore à, je ne sais pas, des décisions politiques? Enfin, c'était plus là-dessus que je voulais savoir si tu... est-ce que tu aurais accepté, par exemple, qu'on te dise « les tisanes, finalement, de l'herbier, sont pas utiles, ça ne fait pas partie des trucs de base qu'il faut pour vivre
» De toute façon, c'est chacun a son opinion. Moi, en tout cas, autour de nous, que ce soit les différentes entreprises de la vallée qui travaillent les plantes aromatiques, il n'y en a aucune qui s'est arrêtée. Donc, je pense qu'il y en a, on a, quand, il y a personne qui a été concerné par cet aspect-là. C'est plutôt vraiment la vente directe, c'est le contact avec le public qui posait problème. Donc, c'est vrai que nous, on n'est pas du tout concerné. On a même évité chez nous, on évite vraiment le maximum de personnes extérieures. On a des artisans qui travaillent. Et avant le confinement, ces personnes-là profitaient des locaux et de nos installations. Aujourd'hui, on a vraiment bien séparé pour apporter à nos salariés la plus grande sécurité possible et pour montrer que, certes, pour eux, ils prenaient un risque en venant travailler, mais l'entreprise mettait tout en place pour essayer d'endiguer au maximum une contamination de l'extérieur. Et donc, je pense que c'est pas évident de mettre la barre au bon endroit. Chacun dans sa structure, dans ses structures, avait ce travail à faire. Et donc, moi, d'un point de vue politique, moi, je ne suis pas engagé. Voilà, chacun doit faire son travail. Moi, ça m'est difficile de répondre à cette question. Moi, je n'ai pas étudié le cas des uns et des autres. Voilà, moi, déjà, rien qu'à l'Herbier, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Il fallait rassurer les gens, il fallait pouvoir leur donner l'opportunité d'avoir tous les éléments pour pouvoir choisir. Nous, on s'est vraiment basé sur le fait que chaque personne pouvait choisir et de venir travailler ou pas, et ensuite de trouver s'il n'est pas travaillé, sous quelle protection il pouvait se trouver. Et nous, on avait vraiment à cœur de pouvoir livrer nos clients, parce que surtout à long terme, nous, il faut qu'on montre à nos clients qu'on est là, qu'on les soutient et qu'on est présent, surtout pour 2021-2022, parce que si on les lâche aujourd'hui, il est très bien possible que l'an prochain, ils nous disent l'Herbier du Diois, vous n'êtes pas fiable, nous, il nous faut des fournisseurs qui soient là quand on a besoin de la matière. Je pense que c'est... c'est une question... qui pour moi plus de l'ordre politique et à laquelle moi je ne peux pas répondre.
Est-ce que si tu avais été obligé de mettre l'entreprise en quarantaine, c'était une manière de mettre la clé sous la porte ? Parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises, enfin là c'est des questions qui tournent un peu sur comment les gens vont s'en sortir. Est-ce que le chômage partiel aurait fonctionné dans ce cas précis ?
Alors pour nous, à calcul économique, si l'État prenait en charge, comme c'est expliqué, c'était beaucoup plus facile, sûr, de fermer l'entreprise.
Ah oui.
Mais voilà, parce qu'il y a une charge salariale énorme à porter aujourd'hui avec une réduction du personnel et aussi du chiffre d'affaires. Sauf que vous portez quand même la charge des salariés avec ce que ça comporte. Alors que si on avait fermé l'entreprise, on se retrouvait seulement avec les charges fixes incompressibles. Et les 84% de la charge salariale aurait été pris en charge par la société.
Donc, c'est presque un pari de continuer à être en activité en ce moment, en sachant justement que, de fait, il y a une partie du rendement qui n'y est plus là, quoi.
Bah pour nous, le pari, c'est surtout nos clients.
C'est-à-dire ouais, c'est ça.
Si on ne livre pas nos clients, quelle est la confiance qu'ils vont nous attribuer dans les mois à venir, dans les années à venir, etc. De toute façon, nos clients, ils vont chercher à trouver la matière. Si eux, ils ont leur ligne de production qui fonctionne et que eux, ils ont l'obligation de livrer, ça forcément, eux feront tout pour pouvoir répondre à la demande et surtout ne pas payer des pénalités dans les magasins. Donc forcément, nous, on a pris le choix d'essayer mais en tout cas de répondre positivement à cette demande de nos clients. Et par contre, si on avait l'obligation de fermer, on aurait donné la réponse à nos clients en disant réglementairement, nous n'avons pas le droit de fonctionner. Donc, ce n'est pas notre de notre responsabilité, et donc ils auraient dû, quoi, ils auraient été aussi devant le fait de devoir accepter la sentence. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas.
Et puis tu le rappelais tout à l'heure, il y a quand même un certain nombre de gens qui dépendent aussi de votre activité, tous ceux qui vous amènent les plans, tout ça. Est-ce que tu peux nous redire un peu ce que ça représente, et est-ce que eux-mêmes, à un moment donné, se sont sentis tendus à l'idée que vous pouviez arrêter vos activités?
On a eu énormément d'appels de producteurs pour savoir qu'est-ce qui se passait et quelle était la situation. On a, dans ce malheur, on a quand même de la chance qu'on est en début de saison. Donc, pour le moment, nous, il n'y a pas encore d'entrée de récolte. Donc, les premières récoltes vont arriver au début mai. Donc, voilà, avec de la chance, ça devrait pouvoir bien se passer. Et c'est sûr que la production elle-même va rencontrer aussi des difficultés si le confinement est encore d'actualité dans un mois. Parce qu'il faut quand même, eux, ils ont aussi besoin de main-d'œuvre, ils ont besoin aussi d'avoir toutes les facilités des services autour pour pouvoir faire leur travail. Voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience assez rapide que ça allait être une année complexe. Pour le moment, je pense que selon les agriculteurs, ils essayent de faire le travail de pré-saison, planter, faire les premiers binages, etc. avec le personnel qu'ils ont. C'est sûr que par la suite, ça va être un peu plus compliqué. Au plus, ils vont avoir besoin de main-d'œuvre. Au plus, la question des gestes barrières, de comment réussir à ne pas avoir trop de proximité entre les différentes personnes qui interviennent sur les différentes tâches, etc., etc. Ça va être une question à débattre avec eux. Nous, on espère qu'on aura la capacité et que les clients vont prendre les besoins annuels, et donc de ce fait, on va pouvoir écouler les marchandises qui vont être produites. Donc les uns et les autres dans la chaîne vont devoir se serrer les coudes pour que ça puisse fonctionner au mieux. Et les semaines à venir vont être déterminantes.
Alors, si tu veux bien prendre avec nous un tout petit peu de hauteur, qu'est-ce que tu penses de ce confinement ? Pour pouvoir parler après du déconfinement concernant à la fois l'herbier du Diois, mais peut-être plus largement l'ensemble de la population. Là, tu parlais des agriculteurs, des saisonniers dont ils vont avoir besoin, etc. Mais tout d'abord, qu'est-ce que tu penses de ce confinement ? Est-ce que c'est quelque chose par lequel il fallait passer, utile ? Enfin, comment tu juges cette période ?
Tout d'abord, moi, j'ai une pensée pour ceux qui souffrent à cette période-là. Forcément, pour le moment, nous, à l'entreprise ou dans les proches, on est très peu touchés. On n'a pas eu de cas. Donc, forcément, pour le moment, nous, on le vit plutôt, de ce point de vue-là, plutôt bien. Il semblerait quand même, au vu de l'ampleur que ça a pris au niveau planétaire, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Moi, je dirais que ma réponse, elle est double. Je pense que pour chacun, dans le quotidien, c'est quand même pas évident. Il faut gérer sa famille, il y a quand même l'anxiété vis-à-vis de l'emploi. Il y a des personnes qui doivent vraiment se poser la question de leur avenir économique, etc. Il y a des entreprises qui vont forcément sortir très endommagé de cette période-là. Pour l'herbier, il est encore bien trop tôt pour que je puisse donner une réponse fiable. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que de toute façon, on est obligé d'accepter. Après, vraiment, sur les décisions prises, je suis... bien sûr, il y a des choses que je trouve excessives. Je pense qu'on aurait pu faire différemment. Ensuite, il faut se rendre compte qu'on est sur du collectif et que c'est jamais facile de faire respecter des règles. Il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à prendre la mesure de ce qui est en train de se passer, qui ne respectent pas les efforts nécessaires pour qu'on endigue la progression de ce virus. Trouver la juste mesure, moi je vois bien à l'entreprise déjà la difficulté que ça demande. Il y a des personnes qui ont vraiment aucune frayeur et qui, voilà, ils ne comprennent même pas pourquoi on fait des efforts. Il y a d'autres personnes qui sont obligées de s'arrêter de travailler parce que c'est plus supportable de venir, venir dans ces conditions-là. Donc, on est tous vraiment différents vis-à-vis de cette problématique. Mais la deuxième partie de ma réponse, c'est que forcément, étant sensible à l'écologie, étant sensible à la prise de conscience de la mondialisation, etc., je trouve que c'est une belle épreuve. Alors, c'est dur à entendre peut-être, mais n'empêche que là, en quelques semaines, on a arrêté le pays, l'économie, on se rend compte qu'on continue quand même à fonctionner, que les voitures se sont calmées, que voilà, les avions se sont arrêtés. C'est quand même une période très spéciale et qui peut nous permettre d'ouvrir les yeux sur quel est l'essentiel de nos sociétés, qu'est-ce qu'on a besoin de vraiment défendre, quelles sont les choses peut-être un peu superflues et qui ont des effets néfastes trop lourds pour notre planète. Voilà, je trouve que on a aussi un vrai apprentissage à avoir de cette période et j'espère, et bien que j'ai des grands doutes, j'espère qu'on saura tirer des leçons positives de ces expériences-là, de la relocalisation, de la nécessité d'être conscient de l'importance de certains métiers, de services qui aujourd'hui sont sur le pont en train de prendre soin de ces personnes qui sont dans la difficulté, qui peut-être ont été trop délaissées pendant des années. Voilà, on peut se rendre compte aussi de l'importance d'un État au service de sa population. Et voilà, je pense que ça, c'est énormément de questions qui sont d'actualité et qui, à mon sens, sont des effets collatéraux positifs de de ce confinement, de cet arrêt brusque de la société.
Une décroissance forcée, peut-être positive. Tu l'as dit, hein, tu es sensible à ces questions-là. L'Herbier du Diois, vous avez aussi, l'entreprise elle-même, adopté un certain nombre de protocoles de fonctionnement. Vous avez un bâtiment, vous avez une production énergétique personnelle maîtrisée, etc. Tout un tas de gestes qui sont un peu ce qu'on entend dire comme étant le monde de demain. Est-ce que tu estimes que dans la période qui va venir de déconfinement, vous pourriez continuer ou peut-être tout simplement être des pionniers ou entraîner comme ça au changement?
Ça me semble important, logique et même crucial que la voix de ces personnes qui résonnaient peut-être pas assez fort avant cette période sur notre crise climatique et sur les enjeux sociaux que nous traversons depuis des années soit mieux entendue à la sortie de ces semaines très complexes. Il y a un écho incessant sur les difficultés de l'approvisionnement lointain. Il y a des échos sur la difficulté que nous avons avec nos services de santé, etc. J'espère bien que ça va être une opportunité pour nous tous d'exprimer l'importance que nous avons pour ces personnes, pour ces structures qui accueillent aujourd'hui les malades, pour ces professeurs qui font les cours à distance, pour ces entreprises qui livrent les magasins pour que chacun puisse manger tous les soirs à la maison sans discontinuité. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui font le nécessaire aujourd'hui pour que la matière première aille du champ jusqu'à dans l'assiette des personnes. Et les personnes qui aujourd'hui vont travailler, elles prennent des risques. Elles sont pas confinées chez elles, elles sont au travail et donc forcément elles ont plus de potentiel de rencontrer le virus quelque part. Donc je trouve que c'est important que certaines voix puissent s'exprimer un peu plus fort à la sortie de cette épreuve. Nous-mêmes, on continuera. Je pense qu'on aura peut-être une caisse de résonance encore plus grande à travers la bio, à travers l'aliment sain et porteur de messages forts qui sont la prise en considération de sa santé tout au long de la vie et du processus aussi de sa fabrication. Oui, je pense que c'est une opportunité et qu'à travers des choses qui existent déjà, que ce soit des organisations comme la BioVallée, que ce soit des syndicats d'entreprises de la bio comme le Synabio, que ce soit toutes ces associations qui défendent une nourriture saine, une prise de conscience de la façon dont on consomme, etc., qui vont avoir, j'espère, des beaux jours devant eux et pouvoir influencer les consommateurs, les politiques et j'espère aussi énormément les entrepreneurs pour que la façon de produire soit un peu plus raisonnée et qu'il y ait une attention un peu plus grande sur l'impact que nous avons sur notre territoire et notre planète.
En quoi justement cette agriculture ou ces méthodes de production ont peut-être accéléré la catastrophe climatique qui elle-même pourrait avoir entraîné à la fois les déplacements de population qu'on connaît et l'émergence massive d'un virus comme celui-là? Tu parlais de bien manger. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous vérifiez ici à l'Herbier, vous-même, là, les employés, vous vous sentez plus immunisés, j'allais dire plus auto-immunisés qu'une partie de la population? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait vérifier à l'échelle du Diwa, qui semble lui aussi un peu plus protégé écologiquement, tout ça?
Moi, je ne suis pas capable de donner des chiffres scientifiques et je suis... Je suis pas du tout dans les croyances. Moi, forcément, on est protégé par déjà la géographie. Donc ça, c'est sûr. Aussi, le nombre de personnes qui habitent ici. Donc forcément, on a ces atouts-là. On a aussi la chance, je pense, d'avoir une population qui a la possibilité d'avoir une activité physique ou voilà, une possibilité de travailler dehors, etc. Donc on a, je crois, une population qui est de façon générale peut-être plus assujetti à une façon de vivre plus équilibrée et plus saine. La bio a aussi fait sa place ici. À travers la bio, il y a aussi la prise de conscience de l'importance de ce qu'on mange et donc de comment on mange et ce qu'il faut manger. Donc ça, tout ça aide forcément à nouveau dans ce genre de situation. Après, personnellement, il faut savoir que ce virus... sa vitesse de propagation est peut-être quelque chose de complètement nouveau, mais voilà, dans notre histoire, on a eu à faire face à ce genre de phénomène plusieurs fois. La peste a aussi suivi le flux des gens à l'époque, et aujourd'hui, le virus a suivi le même chemin, sauf que c'était plus à Godan ou sur les calèches, mais c'était en avion. Mais le principe est exactement le même. Ce qu'il faut, c'est, je pense, surtout ce qui est important, c'est que l'homme a besoin de comprendre que la solidarité, que l'entraide, que les métiers, il y a certains métiers essentiels pour la vie. Sur Terre, il faut manger, il faut boire, il faut avoir des personnes qui peuvent prescrire des soins et prendre soin de ceux qui sont faibles. Et sans ça, ça devient très, très, très vite compliqué. Et donc, je pense que c'est surtout ça qu'il faut à nouveau me remettre au centre de nos sociétés, que oui, les agriculteurs, les personnes qui transmettent le savoir, les personnes qui éduquent, tous ceux qui sont là dans les hôpitaux à s'occuper de nous, c'est essentiel. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut défendre. Voilà, la bio fait partie, est un tout petit morceau de ce puzzle, et j'espère qu'on peut influencer le plus possible.
Comment tu vois le déconfinement et particulièrement à l'herbier aussi, qu'est-ce que vous allez garder dans le protocole, qu'est-ce qui va disparaître instantanément, et est-ce que vous allez faire une grosse teuf de pleine de bises, triple bise d'Iwaz, une fois que ce sera fini?
Moi j'ai peur que ça finisse pas comme ça de façon abrupte, et donc qu'il faudra être bien patient avant de faire cette grande teuf, comme tu dis. Je pense qu'il faut préparer tout le monde à être patient, parce que ça va nous demander vraiment de respecter à nouveau ces règles sanitaires d'hygiène le plus longtemps possible, pour pouvoir protéger à nouveau les personnes qui sont sensibles, qui sont les plus vulnérables. Je pense que ça va être ça la difficulté, c'est-à-dire que tout doucement, on va pouvoir desserrer l'étau, tout en sachant que il faut pas crier victoire trop vite, en sachant qu'aussi il y a des chances qu'ils reviennent une deuxième fois, voire une troisième, donc c'est que partie remise. Et en même temps, je pense que c'est très important aussi de marquer le coup. C'est important de remercier les gens qui ont tout fait pour que ça fonctionne. Dans notre structure aussi, c'est étonnant de voir certaines personnes qui se sont mis cœur et âme à soutenir l'entreprise pour que la continuité puisse être là. Et il y a des postes où certaines personnes se sont retrouvées toutes seules à devoir gérer le flux de matière, les problématiques, etc. Donc forcément, dans quelques semaines, dans quelques mois, elles auront besoin de décompresser, elles auront besoin aussi de prendre un peu de temps pour regarder le chemin parcouru en quelques mois. Et donc, il va falloir penser à comment on va pouvoir répondre à ces besoins-là, tout en sachant que si les marchés vont reprendre, si la vie normale va reprendre, et bien pour nous, il va sûrement y avoir aussi une recrudescence de travail. Et donc aussi, il va falloir mettre les bouchées doubles pour répondre à tout ça, etc. Donc je pense que ça va être une sacrée... un sacré deuxième challenge de réussir à harmoniser tout ça, accueillir les gens qui n'ont pas pu rester avec nous. Nous, on a des personnes qui étaient trop à risque, et donc elles ne sont pas présentes à l'entreprise, donc elles vont être peut-être pendant 2 mois totalement absentes. Et bien, il va falloir quand même les faire revenir, il va falloir qu'elles refassent leur petit nid ici, retrouver leur place, et tout en sachant que ceux qui ont été là pendant plusieurs semaines, ils ont fait peut-être des tâches qu'ils ne faisaient pas d'habitude, mais qu'ils aimeraient bien conserver. Ça va être plein de petits travail de management, micro-ajustements qu'il va falloir faire. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue de l'entreprise. Et après, j'espère pour l'extérieur, pour la vie familiale, etc. J'espère qu'ils vont avoir quand même l'opportunité de fêter ce retour à la normale correctement. Et il va falloir donner aussi un peu de temps au personnel pour pouvoir faire cela. C'est encore tout à imaginer, mais forcément, il va falloir y penser progressivement pour que ça se passe le mieux possible.
Est-ce que ça te fait peur ?
Tous les jours, je me demande comment on va réussir à faire en sorte que humainement, ça se passe le mieux possible et qu'il n'y ait pas des personnes qui perdent trop de plumes. Actuellement, la pression est très forte sur les gens. Ça demande vraiment beaucoup d'efforts, et les conflits peuvent naître vraiment à une vitesse incroyable sur des sujets complètement anodins. Et donc oui, forcément, j'utiliserai pas le mot peur, je sais qu'on nous attend au virage. Il faut que les managers, les personnes qui sont là pour encadrer, pour aider, pour soutenir et pour mettre de l'huile dans le système, il faut vraiment qu'elles soient terriblement vigilantes et à l'écoute, pour qu'on réussisse à faire en sorte que tous ensemble, on arrive à s'en sortir avec le moins de casse possible. Et la jalousie, la mésentente, etc., c'est décuplé en ce moment. Et forcément, la sortie va aussi être l'émotion va, va être libéré et donc il va falloir le gérer, il va falloir trouver des solutions pour que tout le monde retrouve un peu son... Un peu sa gloire ou sa satisfaction ou sa réussite et sans pour autant écraser son voisin ou voilà. C'est, je peux vous donner un exemple, on a des personnes qui ont été donc, chez nous, dès qu'il y a suspicion pour le salarié ou un de ses proches, il y a 14 jours de quarantaine, le retour d'une personne de quarantaine, c'est pas évident pour tout le monde. Et ça se conçoit, c'est normal. Mais donc ça veut dire l'acceptation voilà, de quelqu'un qui est susceptible d'avoir eu des contacts avec le virus. Ben, voilà, c'est quelque chose qui est humainement vraiment pas simple à gérer. Et je conçois que les semaines à venir vont être intéressantes humainement, mais aussi énergivores.
Qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter alors que tu as déjà dit beaucoup sur ce qu'il fallait qu'on fasse avant, après, ce qu'on aurait dû faire et ce qu'il faudra, les directions qu'il faudra qu'on prenne. Je te laisse conclure.
Alors, moi, je ne me sens pas du tout moralisateur ou à donner la leçon. Nous, on souhaite vraiment, avec l'herbier, montrer à travers les actes qu'il est possible de créer une richesse économique locale et tout en étant ouvert sur le monde. Forcément, nous, on est liés aux deux. On a énormément d'agriculteurs vraiment locaux et... travaille aussi à travers le monde entier, que cette diversité est possible avec une prise de conscience voilà, la plus grande possible sur l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, elle réside, un, dans l'humain, donc dans l'aspect de ensemble construire quelque chose et ensemble prendre conscience de l'environnement qui nous accueille. Après, je pense que c'est important aussi de se rendre compte qu'il est possible, là, aujourd'hui, d'arrêter une certaine partie de l'économie et qu'il semble important de réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, qu'est-ce qui est indispensable et ne pas repartir dans une course effrénée sans tirer les leçons de cette période. Voilà, et ensuite, je pense, pour terminer, à nouveau, je veux remercier toutes ces personnes, et que ce soit à l'intérieur de l'herbier ou toutes les autres structures qui fonctionnent encore aujourd'hui, qui se donnent du mal pour que les services soient là, que ça soit, voilà, qu'on reçoive notre courrier ou qu'on soit accueilli à l'hôpital ou que les cours des enfants soient tenus. Voilà, toutes ces personnes qui se donnent à fond pour que on puisse... sauvegarder l'essentiel, le maximum. Voilà, et je pense que pour tout le monde, il y a eu de l'improvisation, il y a eu des doutes, il y a eu forcément aussi des moments complexes, on peut dire de conflits entre différentes personnes ou dans des choix qu'on devait faire. Et je pense que c'est vraiment important de remercier toutes ces personnes qui font ces efforts. Et il y en a un grand, grand, grand nombre. Et voilà, sans ça, nous, on n'aurait pas pu continuer. Les magasins n'auraient pas pu permettre aux personnes de s'approvisionner. Bravo à tous. Et voilà, espérons qu'on se retrouve très rapidement, bien nombreux, sur la place... centrale d'Audi pour pouvoir faire nos courses tranquillement au marché avec tous nos producteurs d'Iwa et les beaux produits qu'ils nous proposent chaque semaine.
Thibert, merci. C'était pas le moralisateur qu'on était allé chercher, mais bien ce responsable d'entreprise qui a fait avancer la cause, au moins en tout cas à l'herbier du Diwa. Je te souhaite bonne continuation à toi et à tous tes salariés. Et encore merci d'avoir participé dans cette formule un peu particulière à cette émission.
Merci à toi et bon courage.
Interview.
Okay, the bird.